Chapitre 11. Quand Clémence Gérard descendit de l'autobus à Percé, elle fut heureuse de voir son oncle Jean-Julien venu la chercher dans sa voiture noire. Lorsqu'il avait décidé d'acheter cette Ford en 1929, les villageois n'avaient pas ménagé leurs commentaires. C'est que le photographe était le seul, avec Gaston Taillefer et Noé Lévesque, à avoir fait une telle acquisition à Lens-à-la-Joie. 5 ans plus tard, quelques habitants des environs mieux nantis commençaient à les imiter. Par contre, ce n'était pas le pêcheur ordinaire, père d'une ribambelle d'enfants, qui pourrait un jour se permettre un tel achat. La jeune femme, épuisée par le long trajet en autobus sur le boulevard Perron, la route qui faisait le tour de la Gaspésie, avait hâte de poser son petit bagage. « Allô, mon oncle! » clama-t-elle en l'enlaçant affectueusement. « Allô, ma fille, t'as fait bonne route? » « Oui, longue, mais avec une belle vue comme ça, ça console. Il y avait beaucoup de touristes quand même. Ça fait drôle de les entendre s'exclamer quand ils aperçoivent le rocher. Je me serais cru dans une basse-cour. » Clémence éclata de rire. Elle replaça son foulard sur ses cheveux, ayant oublié à quel point le vent pouvait souffler fort au bord de la mer. Jean-Julien agrippa la valise de sa nièce en se moquant un peu. « Coudon, reviens-tu t'installer pour de bon à Lens? » « Non, non, rigola Clémence, mais j'hésitais en 2 tenues pour le baptême, puis il faut quand même que je me change après mon voyagement. Et comme je vais donner un coup de main quelques jours à Maddy, je dois avoir des vêtements en surplus. Je peux pas porter la même robe tout ce temps-là. » Coquette, elle fit un clin d'œil à son oncle. Ce dernier avait toujours eu un faible pour cet enfant un peu à l'écart de ses sœurs. Avec sa grande taille élancée, ses cheveux châtains bouclés et coupés à la dernière mode, Clémence ressemblait à sa sœur aînée préférée, aujourd'hui décédée. Elle avait un tempérament agréable et Jean-Julien était bien content de l'héberger pour 3 nuits. « Tu apprécies toujours ton poste à l'hôpital? » s'informa l'oncle en s'installant derrière le volant. « Oui, vraiment. Je me suis fait une bonne amie qui est secrétaire comme moi. Elle s'appelle Angèle. Ce que j'aime, c'est que notre travail est différent tous les jours. C'est pas comme trier des poissons sur la grave ou ramasser des patates. » Clémence n'avait jamais aimé les tâches associées à la pêche ou à l'agriculture. Son plus grand bonheur, depuis qu'elle vivait à Rimouski, était de ne pas avoir à manger de la morue chaque jour. La voiture de Jean-Julien était poussiéreuse, comme tous les autres véhicules qui roulaient sur les chemins de terre de la Gaspésie. Le duo discuta avec bonne humeur jusqu'au moment où Clémence demanda « Et Simone, elle vit ça comment, la naissance de notre neveu? »« Tu lui as pas parlé? » Clémence tira une cigarette de son sac à main sous le regard désapprobateur de son oncle. Celui-ci pointa l'objet et marmonna pour éviter le sujet de Simone. « Tu fumes maintenant? » « Oui, pourquoi pas? » « Alors, ma sœur? » Jean-Julien ne répondit pas, occupé à contourner la charrue de Joseph Tremblay, le charpentier. L'homme transportait 3 longs troncs d'arbres qui dépassaient d'une bonne dizaine de pieds à l'arrière. Quand il eut fini de manœuvrer prudemment son véhicule, l'oncle de Clémence grimaça. « Je l'ai juste aperçue hier en fin d'après-midi. Elle descendait au magasin avec les filles. » « Puis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? » Jean-Julien traversa le village de Lens à la Joie par le chemin principal avant d'amorcer la montée du dernier tronçon jusqu'à sa maison, sans satisfaire la curiosité de sa nièce. Il fit mine d'être bien concentré sur sa conduite sur la route de terre inégale, mais finit par hausser les épaules avec un regard de biais. « Rien, elle m'a envoyé la main, c'est tout. » Clémence souffla la fumée de sa cigarette et fixa son regard bleu sur le visage confus de son oncle. Elle lui fit un sourire triste. « Pauvre mon oncle, tu pensais pas avoir à gérer une telle tragédie quand maman t'a demandé de prendre soin de nous autres, hein? » Jean-Julien stationna la voiture devant sa maison sans répondre. Il remit son chapeau de feutre noir et sortit du véhicule, suivi par sa nièce. Cette dernière se retourna pour contempler la mer qui brillait et murmura « C'est quand même magnifique ici. T'as une vue à couper le souffle. Remarque que je pourrais plus vivre dans un petit village comme ça où tout le monde s'occupe de tes affaires. Je peux même pas imaginer comme ça doit être difficile pour les jumelles actuellement. J'espère que Géraldine s'en est pas trop mêlée. » Si elle décide de prendre le parti de Simone, ma pauvre Madeleine n'aura pas de chance. » Son oncle lui jeta un regard qui en disait long sur la situation. Clémence plissa le nez avant de soupirer profondément. « À ton air, je comprends que c'est ce qui se passe ici. Tu vois, mon oncle, à Rimouski au moins, j'ai la sainte paix. » La cérémonie du baptême faisant d'Arthur Poirier un nouveau membre de la communauté se déroula le lendemain matin. Freddy, Palmyre, Jean-Julien et Clémence étaient les seuls membres présents à l'église pour l'entrée de l'enfant dans la famille de Dieu. Lucienne Marcellet, qui s'occuperait des relevailles de Madeleine après le départ de sa sœur cadette, avait été choisie pour être porteuse de l'enfant. Après les premières semaines de malaise suivant la noyade d'Éloi, la grosse femme avait avisé son mari un bon matin qu'elle avait décidé de ne pas tourner le dos à la jeune Poirier. Il y a toujours bien des limites à lui faire payer un moment de fatigue normale. Elle était quand même enceinte de 7 mois, la pauvre, quand c'est arrivé. Tu sais bien qu'elle n'a pas fait exprès de s'endormir. Ça fait que je vais prendre soin de Maddie, comme si c'était ma fille, puis t'as rien à dire de ça, Tibouk, avait-elle martelé à son époux. Malgré une légère inquiétude, Bourbeau-Marcellet s'était vite aperçu que les parents du bambin décédé ne se préoccupaient guère des liens qu'entretenaient les villageois avec Madeleine. Tout ce que désirait le couple endeuillé, c'était qu'on ne parle pas de son enfant, ni de celui de Madeleine. Alors, le 19 août 1934, Lucienne se para de sa plus belle robe pour se préparer à la tâche que lui avait affectueusement confiée sa jeune voisine. Fière, elle s'approcha de la nouvelle mère sur le balcon de leur maison. Évidemment, comme le voulait la bienséance, cette dernière n'assisterait pas au baptême de son enfant. « Tu devrais te coucher, ma fille », la sermonna Lucienne en s'approchant les mains sur ses hanches. « Je voulais juste vous regarder partir », chuchota Madeleine avec une légère déception dans le ton. « Oui, je comprends ça, mais tu sais que pour les 9 prochains jours, tu devrais pas te fatiguer sous aucun prétexte. « Retourne au lit, Maddie. » Madeleine fit un sourire un peu triste alors que sa sœur Clémence tendait le poupon emmailloté à la voisine. « Il est donc bien beau, ce bébé-là, dans sa petite robe blanche !» s'exclama Lucienne de sa voix forte. « C'est un cadeau de grand-mère, » précisa Madeleine, parvenue près de l'escalier. La jeune femme tentait d'éviter de penser que Simone lui avait promis un jour que leurs enfants porteraient le même ensemble de baptême lors de leur journée de présentation au Seigneur. Étant donné les circonstances, elle n'avait pas osé demander à sa sœur la tenue que les siens avaient enfilée. Palmyre s'était aussitôt mise à la tâche sur sa machine à coudre et elle avait confectionné une magnifique robe ornée de dentelle pour le poupon. Arthur avait les yeux ouverts et son regard trouble de nouveau-né fixait le ciel. Clémence s'approcha de sa sœur pour la serrer contre elle en lui promettant de lui raconter tout le déroulement de la cérémonie. « Il est splendide, mon filleul, m'a dit. Je trouve qu'il me ressemble un peu, non? » chuchota la marraine pour amuser la nouvelle maman. Madeleine éclata de rire et monta l'escalier en se tenant à la rampe. Sa jeune sœur serait présente pour le début de ses relevailles, mais elle ne pouvait rester plus que quelques jours. De toute manière, comme son accouchement s'était relativement bien déroulé, surtout pour un premier bébé, la nouvelle mère n'avait pas l'intention de rester couchée bien longtemps. De plus, Lucienne viendrait l'aider. « Revenez vite !» cria-t-elle avant que la porte de la maison ne se referme sur le groupe. Le curé Mathieu se tenait sur le parvis de la petite église blanche pour accueillir la famille Poirier. Son regard sévère se posa sur la jupe beige qui couvrait tout juste les genoux de Clémence. La jeune femme déglutit et prit le bras de Freddy pour marcher jusqu'à l'homme d'église, un grand sec qui avait officié à son propre baptême ainsi qu'à ceux de la plupart des villageois. « Il doit bien être à la veille de trépasser », songea Clémence en s'excusant aussitôt mentalement. La cérémonie, empreinte de douceur, se déroula dans une église presque vide. Il n'était pas coutume de convier des gens pour les baptêmes autres que les membres de la famille proche. Comme les sœurs aînées et les parents de Freddy ne s'étaient pas déplacés pour l'occasion et que Simone et Tom n'avaient pas été conviés, les invités étaient peu nombreux. « Maddie va être contente, notre bébé est protégé », murmura Freddy en se penchant vers sa jeune belle-sœur qui hocha la tête. Clémence lui adressa un sourire compatissant. La crainte que leur nouveau-né meure sans avoir été baptisé hantait tous les nouveaux parents de sa connaissance. Palmyre lui avait expliqué un jour que tant et aussi longtemps que le baptême d'un bébé n'avait pas été concrétisé, l'enfant ne pouvait espérer accéder au ciel si jamais il décédait. Lorsqu'ils sortirent tous de l'église, le bedeau sonna les cloches 5 fois. Ce nombre correspondait au montant du don offert par Jean-Julien, le parrain. « T'es donc bien riche, mon oncle !» dit Clémence en lui faisant un clin d'œil. « Arrête de dire des niaiseries !» rougit le célibataire. « C'est normal. Après tout, je suis maintenant le deuxième père de ce petit gars-là. Il faut bien que j'annonce à tout le village qu'on a un nouveau membre. » Dans sa maison à l'autre bout du Rance-Oriole, allongée dans son lit, Madeleine laissa échapper une larme de soulagement lorsqu'elle entendit les cloches. « Enfin, » pensa-t-elle, « enfin, sa place est réservée au paradis. » La femme se redressa lentement et prit le temps de revêtir une jolie robe fleurie. Elle noua sa fine ceinture rose en faisant la moue, constatant que la naissance d'Arthur ne voulait pas dire une perte de poids instantanée. Malgré les remontrances que Lucienne et les membres de sa famille risquaient de lui faire, Madeleine était bien décidée à rejoindre le groupe en bas dès le retour des siens à la maison. « Je suis quand même pas pour rester couchée pendant que tout le monde va célébrer l'arrivée de mon fils au royaume de Dieu. Je vais au moins descendre pour grignoter un peu. » Le lendemain matin, à la première heure, Clémence quitta la maison de son oncle pour se diriger chez Madeleine, afin de l'aider avec les tâches de la maison. En arrivant en bas de la côte, elle hésita un peu. Puis, sachant qu'elle ne pouvait reporter sa visite plus longtemps, elle plaqua un large sourire sur son visage étroit et se dirigea d'un bon pas vers la maison de sa sœur Simone. Elle grimpa sur le balcon en inspirant pour calmer les battements de son cœur. Depuis 2 jours, depuis son arrivée à Lens-à-la-Joie, la châtaine cherchait comment concilier l'amour qu'elle éprouvait pour ses 2 sœurs. Les yeux à demi fermés, elle attendit quelques secondes avant de frapper à la porte. « Je peux pas me cacher », murmura Clémence. « Ici, les nouvelles restent jamais secrètes bien longtemps et c'est certain que Simone a entendu les cloches annonçant la fin du baptême d'Arthur. Elle sait sûrement que je suis au village. » La grande châtaine leva finalement la main et cogna à la porte de bois. Elle patienta, en espérant lâchement que sa sœur serait déjà partie sur la plage. Se sentant coupable de penser ainsi, Clémence redressa son corps mince en observant la poignée de métal tournée. « Tiens, tiens, la grande visite !» marmonna Simone en ouvrant lentement. « Salut ma sœur, ça fait longtemps ?»« Ouais. Je peux entrer ?» Simone hocha sa tête ébouriffée. Même si elle n'avait jamais été aussi coquette que Clémence, la mère de famille présentait en cette matinée doux un portrait fort peu reluisant. La visiteuse plissa le front. « T'es malade, Simone? » « Non, pourquoi? » « C'est juste parce que t'es encore en jaquette. » « Disons que je dors pas très bien depuis quelques jours, mais ça va passer. » Simone haussa ses épaules et alla chercher sa tasse de thé sur le comptoir. Elle en proposa une à sa cadette qui accepta l'offre avec plaisir. « Je vais m'habiller, donne-moi une minute. » La femme se déplaça vers l'arrière de la maison en criant à son aîné « Philomène, occupe-toi de ta sœur! » Clémence sourit en écoutant la réponse de sa nièce qui précisa que c'était déjà ce qu'elle faisait tous les matins. « Elle avait le sens de la répartie, la petite », songea la châtaine en jetant un coup d'œil sur le salon bien rangé. Comment ses sœurs faisaient-elles pour toujours être aussi ordonnées, même avec des enfants, alors que la pagaille régnait dans son propre appartement, bien qu'elle vivât seule? Quand Simone revint dans la cuisine, Clémence avait allumé une cigarette et inspirait avec bonheur. Elle sourit à sa sœur en déclarant « Je suis en manque, tu savais. Mon oncle refuse que je fume dans sa maison, dans son auto, trop proche de lui, une vraie maladie, son affaire. Je pense que c'est parce que je suis une femme. Il doit pas trouver ça chic. » Simone éclata d'un rire bref. Au moment où Clémence allait l'interroger sur son état, étant donné les circonstances, Philomène déboula dans le corridor, menant à la cuisine en criant « Ma tante Clémence !» Elle sauta sur les genoux de cette dernière et lui plaqua un bec sonore sur la joue. Sa petite robe rouge au col Claudine remonta sur son ventre et la fillette éclata de rire pour cacher sa culotte. Puis elle pointa le visage légèrement maquillé de Clémence et ses boucles fraîchement lavées qui sentaient un peu la grume et elle lança « T'es belle et tu sens bon, ma tante !»« Mon doux merci, ma fille, je vais revenir te voir plus souvent !» rigola Clémence sous le regard indulgent de Simone. Cette dernière se pencha pour ouvrir la fenêtre au-dessus du comptoir et demander à Philomène « Béatrice est endormie? »«
Oui. » »«
Arrête de crier alors. » Le ton sec de la mère et la mine boudeuse de Philomène n'échappèrent pas à Clémence, qui fit un clin d'œil à la blondinette pour alléger l'atmosphère. La petite fille marmonna en se laissant glisser sur le sol.
« Je peux aller rejoindre grand-papa? »
« Oui, mais mets pas tes souliers d'école, par exemple. »«
Je le sais, » répliqua la fillette en grimaçant. « Tu me le répètes tous les jours. »
Sur ces paroles, Philomène sourit à sa tante et se pressa d'aller enfiler des vieilles sandales de cuir usées avant de sortir pour aller au bout du champ derrière la maison. Horace s'y rendait tous les matins pour s'occuper des poules, ramasser les œufs et traire leurs vaches. Une fois l'enfant sorti, Simone invita sa cadette sur le balcon. La matinée était douce, moins humide que les journées précédentes, et les femmes apprécièrent le silence environnant jusqu'à ce que le tracteur de Joseph Tremblay déboule sur le chemin. « Alors, tu aimes toujours ça, Rimouski? » s'informa Simone en croisant ses jambes, sans se préoccuper de ses genoux découverts. Clémence regarda les grosses chaussettes ravalées que portait sa sœur, et elle retint un commentaire. Après tout, elle n'était pas ici pour juger de l'habillement de Simone. Au moins, cette dernière avait passé un bandeau sur ses boucles et enfilé une robe verte à rayures beige qui ne la comprimait pas trop. Elle arrêta de se bercer pour réfléchir à la question, puis sourit. « Ouais, j'aime ça. Tu sais quoi? Je pense que je pourrais plus vivre dans un petit village comme Lens-à-la-Joie. » Sa sœur avala une gorgée de thé en hochant ensuite la tête. « Je te comprends, » dit-elle. J'avoue que moi aussi, parfois, je donnerais cher pour sacrer mon camp d'ici. » Clémence eut la décence de ne pas répondre à ce commentaire acerbe. Le malaise entre elles ne se dissiperait jamais, tant qu'elle n'aborderait pas la question de la naissance d'Arthur. Au bout d'une dizaine de minutes de discussion superficielle, la jeune femme inspira profondément, se pencha et posa sa main sur l'avant-bras de Simone. « Tu veux venir avec moi voir ton nouveau neveu? » Un rictus de douleur traversa le visage aux joues creuses de la jumelle qui cracha. « Je veux rien savoir. »« Voyons, Simone, tu peux pas. »« Oui, je peux. Oui, je peux. Tu comprends pas que si je veux survivre à la mort de mon fils, il faut que je réussisse à pas penser à Manny? Les deux sont interreliés. Je pourrai jamais renouer avec elle. Je dois ça à Éloi. Quand bien même que je lui pardonnerai un jour et je suis loin d'être là. » précisa-t-elle sans regarder Clémence. « Notre relation est brisée à tout jamais. Madeleine était la personne en laquelle j'avais le plus confiance au monde. » Simone n'attendit pas de réponse, perdue dans ses pensées. Clémence fit un sourire sans joie et se retint de dire « comme si je le savais pas. » « Alors, » reprit la brunette, « pas question d'aller chez elle. Je peux même pas te dire que je suis contente pour Maddy. C'est méchant, hein? » « Non. » Je pense que dans les circonstances, c'est normal, chuchota Clémence. La plus jeune observa la bouche tremblante de sa sœur, où un pli amer s'était formé à l'une des commissures. Avant, elle confondait même parfois ses sœurs jumelles tant elles se ressemblaient. Mais à présent, la cadette réalisait à quel point les deux derniers mois avaient meurtri les femmes d'une manière différente. Simone, qui avait toujours été enjouée, dynamique, trop explosive parfois, semblait n'être plus animée par aucune joie de vivre. Son regard était éteint, sa bouche légèrement crispée et son corps amaigri. Le contraste avec Madeleine et sa fragilité, son bonheur de nouvelle maman, était frappant. Clémence tenta quand même de réparer la relation entre les jumelles. Elle caressa les cheveux courts de Simone, qui ferma les yeux en laissant échapper un soupir qui ressemblait à un sanglot. « Je sais, » commença Clémence, « que la douleur que tu ressens est terrible. Je connaissais peu Éloi, mais c'est certain que sa mort est épouvantable. Mais je sais aussi que Maddy a le cœur en mille miettes, qu'elle t'aime comme personne d'autre, Simone. Arrête, Clémence! » cria Simone en cessant de se bercer. Maddy a un fils au moins. Le mien, il est disparu à cause de son insouciance. Si tu veux que je continue à te voir, « il va falloir que tu cesses de ramener ce sujet sur le tapis. La discussion est close. » Le ton colérique de la mère de famille fit sursauter Clémence et aussitôt, comme en réponse à cet éclat, les pleurs de Béatrice dans la chambre à l'arrière de la maison se firent entendre. Simone se leva pour tourner le dos à sa sœur et plongea son visage aux traits défaits entre ses mains. « Excuse-moi d'avoir crié, » murmura-t-elle. « Mais je veux pas parler de ça, Clémence. Respecte ma décision, je t'en prie. » « Je vais chercher Béatrice, » continua-t-elle sans regarder l'autre femme. Attristée, la plus jeune des sœurs hocha la tête de haut en bas. Avait-elle le choix? Quand elle prit congé de Simone une quinzaine de minutes plus tard, cette dernière avait retrouvé un certain calme et Clémence lui fit la promesse de repasser la voir avant de retourner à Rimouski le lendemain soir. « Je t'aime, ma Simone. Je t'aime aussi, Clémence. »